Chapitre 81. Ce grand détachement de Caton, cette grande abnégation de lui-même, ce grand dévouement aux autres, venaient de ce qu'il était depuis longtemps décidé à se donner la mort. Plus il planait au-dessus de cette vie qu'il allait quitter, plus il éprouvait de grands tourments et de vives douleurs pour ceux qu'il abandonnait à tous les orages de la terre. Aussi, avant de mettre ce sinistre projet à exécution, résolut-il de pourvoir à la sûreté des Pompéiens, tous tant qu'ils étaient, puis ce devoir accompli, rester en face de lui-même et de son génie vaincu, de se délivrer de la vie. Aussi, dit Plutarque, son impatience de mourir ne pouvait-elle point se cacher, quoiqu'il n'en dît pas un mot. Il rassura donc les sénateurs, et pour accomplir jusqu'au bout le devoir imposé, il alla trouver les 300. Ceux-ci le remercièrent de la confiance qu'il avait en eux, le prièrent de les diriger dans leur résolution, mais lui annoncèrent que cette résolution était prise. Cette résolution était d'envoyer des députés à César. « Hélas, lui dirent-ils, nous ne sommes pas des Catons, et entre nous tous, nous n'avons pas la vertu du seul Caton. Compatis donc à notre faiblesse. Résolu d'envoyer des députés à César, c'est pour toi d'abord que nous demanderons la clémence de César. Si tu ne te rends pas à nos prières, eh bien, nous n'accepterons pas de grâce pour nous-mêmes et nous combattrons pour l'amour de toi jusqu'au dernier soupir. » Mais soit que Caton n'eût pas grande confiance dans la foi punique, soit qu'il ne voulût pas entraîner avec lui tant d'hommes dans l'abîme, il donna de grands éloges à cette bonne volonté qu'il lui manifestait. Mais il leur conseilla en même temps de députer au plus tôt vers César afin d'assurer leur vie. « Seulement, ajouta-t-il en souriant d'un sourire triste mais résolu, ne demandez rien pour moi. C'est au vaincu qu'il convient d'implorer le vainqueur. C'est au coupable qu'il convient de demander pardon. Quant à moi, non seulement j'ai été invincible toute ma vie, mais je suis encore aujourd'hui vainqueur autant que je le voulais, car j'ai sur César l'avantage de l'honnêteté et de la justice. C'est lui qui est véritablement pris et vaincu, car ses desseins criminels, ses desseins contre sa patrie, ses desseins qu'il niait autrefois, les voilà aujourd'hui publiquement reconnus. Les 300 ne demandaient pas mieux que d'avoir la main forcée. Aussi, sur les instances de Caton, se décidèrent-ils à faire leur soumission à César. Cela était d'autant plus urgent que César marchait sur Utique. « Bon !» s'écria Caton en apprenant cette nouvelle. « Il paraît du moins que César nous traite en homme. » Puis, se tournant vers les sénateurs, « Allons, allons, dit-il, il n'y a pas de temps à perdre, mes amis. Il s'agit de pourvoir à votre retraite, tandis que les cavaliers sont encore dans la ville. » En conséquence, il donna à l'instant même l'ordre de fermer toutes les portes, excepté celles qui donnaient sur le port, distribua les navires entre les fugitifs, veilla à ce que tout se passât sans confusion, prévint les troubles presque inséparables d'une retraite précipitée, et fit donner à ceux qui étaient pauvres la nourriture gratis pour tout leur voyage. Cependant, la nouvelle arriva qu'une autre fraction de l'armée de Scipion était en vue. Cette autre fraction se composait de 2 légions, lesquelles étaient commandées par Marcus Octavius. Marcus Octavius campa à une demi-lieue à peu près d'Utique, et de là fit demander à Caton comment il comptait régler avec lui le commandement de la ville. Caton haussa les épaules sans rien répondre au messager, mais se tournant vers ceux qui l'entouraient, « Faut-il s'étonner, dit-il, que nos affaires soient si désespérées, quand nous voyons chez nous l'ambition de commander survivre à notre perte même ?» Sur ces entrefaites, on vint annoncer à Caton que les cavaliers partaient, mais en partant, pillaient les citoyens et emportaient leur argent et leurs objets précieux comme dépouilles aux pimes. Caton s'élança aussitôt dans la rue, courant sur les différents points où s'opérait ce pillage. Il atteignit les premiers et leur arracha des mains le butin qu'ils avaient fait. Aussitôt les autres, honteux de leur conduite, abandonnèrent ce qu'ils avaient pris et tous se retirèrent pleins de confusion et les yeux baissés. Ses amis embarqués, les cavaliers hors de la ville, Caton rassemble les Uticiens, les suppliant de se maintenir en bonne harmonie avec les 300 et de ne point les uns contre les autres exciter l'ennemi commun. Puis il retourne au port, jette un dernier adieu à ses amis qui déjà gagnent la haute mer, trouve son fils qui avait fait semblant de consentir à s'embarquer mais qui était demeuré au contraire sur le port, le félicite au lieu de le blâmer et le ramène à la maison. Chez Caton vivaient dans l'intimité trois hommes, le stoïcien Apollonides et le péripatéticien Démétrius. Le troisième était un jeune homme nommé Statilius qui se vantait d'une force d'âme à toute épreuve et qui prétendait que, quelque chose qui arrivât, il ne resterait pas au-dessous de l'impassibilité de Caton lui-même. Cette prétention de l'apprenti philosophe faisait sourire Caton et il disait aux autres « C'est à nous, mes amis, de guérir l'enflure de ce jeune homme et de la réduire à des proportions réelles. » Au moment où, après avoir passé une partie de la journée et la nuit tout entière sur le port du Tique, Caton rentrait chez lui, il y trouva Lucius César, parent de César, délégué par les 300, pour aller intercéder en leur nom près du vainqueur. Le jeune homme venait prier Caton de l'aider à composer une harangue qui pût toucher César et amener le salut commun. « Pour ceux qui vous regardent, lui disait-il, laissez-moi faire. Quand je l'implorerai en votre faveur, je me ferai gloire de baiser ses mains et d'embrasser ses genoux. » Mais Caton l'arrêta court. « Si je voulais, lui dit-il, devoir la vie à la clémence de César, j'irai le trouver seul. Mais je ne veux pas avoir d'obligation au tyran pour des choses sur lesquelles il n'a aucun droit. Car de quel droit donnerait-il, comme un dieu, la vie à ce qui ne dépend point de lui ? Au reste, ceci posé, et moi, excepté du pardon général, examinons ensemble ce que tu peux dire en faveur des 300. » Et il aida Lucius César à composer son discours. Après quoi, il lui recommanda ses amis et son fils. « Ne vous verrai-je donc pas à mon retour ?» demanda le jeune homme. « Peut-être serai-je parti, » répondit Caton. Il le reconduisit, lui fit ses adieux et rentra à la maison. Là, comme s'il eût commencé ses dernières dispositions, il appela son fils, auquel il défendit de se mêler d'une façon quelconque des affaires du gouvernement. « L'état des choses, dit-il, ne permet de rien faire qui soit digne de Caton. Mieux vaut donc ne rien faire du tout que quelque chose qui soit indigne de notre nom. » Vers le soir, il alla au bain. Dans le bain, il se souvint de son jeune philosophe Statilius. « À propos, mon cher Apollonides, s'écria-t-il, je n'ai pas revu notre stoïcien, ce qui me prouve qu'il aura cédé à tes instances et qu'il se sera embarqué. Il a bien fait de s'embarquer, mais il a mal fait de s'embarquer sans me dire adieu. « Allons donc, répondit Apollonides, il n'en est rien, au contraire. Il est, malgré notre entretien, resté plus entêté et plus inflexible que jamais. Il déclare qu'il restera et fera tout ce que fera Caton. » « C'est ce que nous verrons ce soir, » dit le philosophe. Caton quitta le bain vers 6 heures de l'après-midi, rentra chez lui et soupa en nombreuse compagnie. Il soupa assis, selon le vœu qu'il avait fait à Pharsale de ne plus se coucher que pour dormir. Ses convives étaient ses amis ordinaires, plus les principaux magistrats du Tique. Après le repas, on continua d'apporter des vins différents. Caton ne détestait pas cette causerie qui s'entremêlait de rasades. La conversation fut calme et savante, comme l'était d'habitude celle que présidait Caton. On y discuta successivement plusieurs questions philosophiques, et de propos en propos, on en arriva à l'examen de ce qu'on appelle les paradoxes des stoïciens. Par exemple, que l'homme de bien est seul libre et que tous les méchants sont esclaves. Le péripatéticien Démétrius s'éleva, comme on le pense bien, contre ce dogme. Mais alors Caton, s'échauffant, repoussa ses arguments avec véhémence. Et, d'un ton de voix rude et sévère, avec une certaine acrimonie qui dénonçait une fièvre intérieure, il soutint si longtemps et si fermement la lutte que personne ne douta plus que sa résolution ne fût bien arrêtée et qu'il ne fût décidé à se tuer. Aussi, à peine Caton eut-il cessé ce fiévreux monologue, car il avait fini par parler à peu près seul, tant les assistants l'écoutaient avec attention, nous dirons presque avec vénération, qu'il se fit un morne silence. Caton en comprit la cause et s'occupa aussitôt de ramener ses amis et d'éloigner leurs soupçons. Puis, remettant sur les choses présentes la conversation dont il s'était emparé, il manifesta ses inquiétudes sur ceux qui s'étaient embarqués et ses craintes non moins grandes sur ceux qui s'en allaient par terre à travers un désert sauvage et sans eau. Puis, les convives étrangers partis, il fit avec ses amis sa promenade accoutumée, son après-souper, comme il l'appelait, puis il donna au capitaine de service les ordres nécessités par les circonstances. Enfin, se retirant dans sa chambre, il embrassa son fils et chacun de ses amis en particulier avec des témoignages d'affection plus marqués qu'à l'ordinaire, ce qui renouvela toutes leurs craintes sur ce qui allait probablement se passer pendant le reste de la nuit. Une fois couché, il prit le dialogue de Platon sur l'âme, Phédon, et après en avoir lu une grande partie, il jeta les yeux au-dessus de son chevet. Ses yeux cherchaient son épée qui y était habituellement suspendue. L'épée n'y était pas. Il appela un de ses esclaves et lui demanda qui avait pris son épée. L'esclave ne répondit point et Caton se remit à sa lecture. Au bout d'un instant, il jeta les yeux autour de lui. L'esclave n'était plus là. Il appela de nouveau, sans emportement et sans impatience. « J'ai demandé où était mon épée, » dit-il. « Oui, maître, » répondit l'esclave, « mais j'ignore où elle est. »« Qu'on la cherche et qu'on me la porte, » dit Caton. L'esclave sortit. Un temps assez long s'écoula encore et l'on n'apporta point l'épée. Alors, pour la troisième fois, avec impatience, il appela ses esclaves les uns après les autres et leur demanda avec emportement « Je veux savoir où est mon épée et j'ordonne qu'on me la porte. » Et comme on obéissait point assez vite selon ses désirs, il donna à celui qui était le plus proche de lui un tel coup de poing que le malheureux esclave sortit de la chambre, le visage tout en sang. En même temps, Caton criait « Malheur à mes esclaves et à mon fils qui veulent me livrer vivant à mon ennemi !» À ses cris, son fils entra avec les philosophes et se jeta à son cou en criant « Mon père, au nom des dieux, mon père, au nom de Rome, ne te tue pas !» Mais Caton le repoussa et, se dressant sur son séant, « Quand et dans quel lieu, dit-il avec un regard sévère, ai-je, sans m'en apercevoir, donné des preuves de folie ? Pourquoi, si j'ai pris en mauvais parti, personne ne cherche-t-il à me détromper ? Pourquoi, si j'ai pris le bon, m'empêcher de suivre ma résolution et m'enlever mes armes ? Que ne fais-tu attacher ton père au généreux fils ? Que ne lui fais-tu lier les mains derrière le dos, afin que César, en arrivant, le trouve hors d'état de se défendre ? Ai-je du reste besoin d'une épée pour m'ôter la vie ? Non, il me suffit de retenir mon haleine jusqu'à ce que j'étouffe, ou de me briser la tête contre la muraille. » Aux paroles de son père, le jeune homme ne put retenir ses larmes, et comme il craignait que son père ne lui en fît un crime, il s'élança hors de la chambre en sanglotant. Les autres sortirent après lui. Démétrius et Apollonides restèrent seuls près de Caton. Alors Caton, les regardant d'un œil un peu plus radouci, « Et vous, dit-il, prétendez-vous aussi retenir par force dans la vie un homme de mon âge, et resterez-vous auprès de moi pour me garder en silence, ou bien êtes-vous venu m'apporter quelque beau raisonnement pour me prouver que, Caton n'ayant plus d'autre moyen de sauver sa vie, il est honorable pour lui de la tenir de César ? Voyons, voyons, parlez ! Convainquez-moi de cette belle maxime. J'écoute. Faites-moi changer de résolution, je ne demande pas mieux. Dégoûtez-moi des opinions dans lesquelles j'ai vécu jusqu'à présent, afin que, devenu plus sage, je me rallie à César. Ce n'est point que j'ai pris encore aucune résolution, non. Mais il me semble que, ma résolution une fois prise, je dois être le maître de l'exécuter. C'est en quelque sorte avec vous que j'en vais délibérer. Parlez, je vous écoute. Parlez sans rien craindre, et dites à mon fils qu'il ne cherche point à emporter par la violence ce qu'il ne peut obtenir que par la persuasion. » Démétrius et Apollonides comprirent que tout ce qu'ils pourraient répondre ne persuaderait point Caton. Ils sortirent donc de la chambre en pleurant et lui envoyèrent son épée par un jeune enfant, dans un double espoir sans doute, c'est que la vue de la jeunesse dans toute sa fleur le désarmerait, et qu'ensuite il ne demanderait pas à cet enfant ce qu'il eût demandé à un homme fait, c'est-à-dire de le tuer. L'enfant apporta l'épée sans savoir que c'était la mort qu'il apportait et lui donna l'arme tant demandée. Caton la prit, la tira du fourreau, passa l'index sur la pointe, le pouce sur le tranchant et, trouvant la pointe suffisamment aiguë, le tranchant bien affilé, il dit « Je suis mon maître maintenant ». Puis, renvoyant l'enfant, il plaça son épée auprès de lui et se remit à sa lecture. Deux fois alors, dit-on, il relut le Phédon tout entier, puis il s'endormit d'un sommeil si profond que ceux qui veillaient à sa porte l'entendaient ronfler. Vers minuit, il se réveilla et appela deux de ses affranchis, Cléante, son médecin, et Butas, son homme de confiance pour les affaires politiques. Il envoya Butas au port pour s'assurer si tout le monde était parti et pour venir lui donner des nouvelles à la fois de l'embarquement et de l'état du temps. Dès que Butas se fut éloigné, il présenta au médecin sa main enflée du coup de poing qu'il avait donné à l'esclave avec ordre d'y mettre un bandage. Cléante obéit, puis le pansement fait, courut par toute la maison, rassurant tout le monde, racontant ce qui venait de se passer et disant « Si Caton voulait mourir, comme vous le croyez, il ne m'eût pas ordonné de panser sa main. » Sur ces entrefaites, Butas rentra. On l'arrêta dans le vestibule pour lui annoncer la nouvelle qui répandait la joie dans toute la maison. Lui aussi crut alors, comme tout le monde, qu'il n'y avait plus rien à craindre de ce côté-là. Il entra donc chez Caton. « Ah !» dit celui-ci, « je t'attendais avec impatience. »« Me voici, » répondit Butas. « Tu as été au port, tu t'es informé ?»« Oui. »« Eh bien ?»« Eh bien, tous sont partis, excepté Crassus, que quelques affaires ont retenu, mais qui, dans un instant, va s'embarquer. »« Et le temps ?»« Il fait grand vent, la mer est terrible, c'est une véritable tempête. »« Hélas !» fit Caton, songeant à ceux qui étaient en mer. Puis, après un instant, « Retourne au port, » dit-il à Butas. « Vois si quelques-uns ne sont point restés, et s'ils ont besoin de secours, avertis-moi. » Butas sortit. Comme les coqs commençaient à chanter, c'est-à-dire vers 1 heure du matin, Caton se rendormit pendant quelques instants. Il attendait le retour de Butas. Butas revint et lui dit que les environs du port étaient parfaitement tranquilles. Alors Caton lui commanda de se retirer et de fermer la porte de sa chambre. Et en lui disant cela, il se remit au lit, car il s'était levé pour recevoir Butas, il se remit au lit comme pour y passer le reste de la nuit. Mais la porte fut à peine refermée derrière Butas que Caton tira son épée et se l'enfonça un peu au-dessous des côtes, seulement l'enflure de sa main et la douleur qu'il en éprouvait l'empêchèrent de porter un coup assez assuré pour que la mort suivît instantanément. En luttant contre cette mort qui ne voulait pas venir et qui envoyait à sa place la douleur, Caton tomba de son lit sur le plancher et renversa un tableau à tracer des figures de géométrie. Au bruit que fit le tableau en tombant, les esclaves chargés de veiller poussèrent un grand cri. Les filles et les amis de Caton s'élancèrent aussitôt dans sa chambre. Ils virent Caton se roulant à terre, tout souillé de sang. Ses entrailles étaient presque tout entières sorties du corps, et cependant, il vivait encore et avait les yeux tout grands ouverts. Alors on appela à grands cris Cléante qui arriva. Pendant ce temps-là, on avait soulevé Caton et on l'avait replacé sur son lit. Cléante examina la blessure. Elle était affreuse, mais les entrailles n'étaient point offensées, de sorte qu'il fit signe d'avoir bon espoir. Puis, reprenant les entrailles, il les fit rentrer dans la blessure et recousit la plaie. Tout cela s'était fait pendant un évanouissement de Caton. Mais Caton revint à lui et, au fur et à mesure qu'il reprenait ses sens, reprit aussi la conscience de ce qui s'était passé. Alors, furieux de voir qu'il vivait encore, il repoussa violemment le médecin, rouvrit la plaie, déchira ses entrailles de ses mains et expira. La nouvelle de cette mort se répandit avec une effroyable rapidité. En moins de temps qu'il n'en eût fallu aux personnes de la maison pour en être instruites, les 300, réveillés au milieu de la nuit, étaient déjà devant la maison. Un moment après, tout le peuple d'Utique y était assemblé. C'étaient des cris inouïs, des clameurs confuses. Tous, d'une commune voix, proclamaient Caton le bienfaiteur, le sauveur, le seul homme libre, le seul homme invincible, et cela à l'instant même où l'on apprenait que César n'était plus qu'à quelques milles. Mais ni l'envie de flatter le vainqueur, ni le désir de traiter avec lui, ni les querelles qui les divisaient, ne purent affaiblir le respect qu'ils avaient pour Caton. Ils jetèrent sur son corps leurs plus magnifiques manteaux, lui firent des obsèques splendides, et n'ayant pas le temps de le brûler et de recueillir ses cendres, ils l'enterrèrent au bord de la mer, à l'endroit même où, du temps de Plutarque, on voyait encore une statue de Caton tenant une épée à la main. Ce ne fut que le dernier devoir des funérailles accomplies qu'ils s'occupèrent de leur salut et de celui de la ville. Caton était âgé de 48 ans. Ce que l'on avait dit de l'approche de César était vrai. Apprenant par ceux qui venaient se rendre à lui que Caton et son fils restaient dans Utique et paraissaient résolus à ne le point quitter, il jugea que ces hommes au cœur stoïque méditaient quelque dessein dont il ne pouvait se rendre compte, et comme, après tout, il avait une haute estime pour Caton, il venait d'ordonner que l'on marchât aussi vite que possible sur Utique, lorsqu'on vint lui annoncer que Caton était mort et de quelle façon il était mort. César écouta avec une douleur visible le récit de cette terrible agonie. Puis, lorsque le narrateur eut tout dit, « Oh, Caton ! S'écria César, je t'envie ta mort, car tu m'as envié mon pardon. » Caton laissait un fils et une fille. Le fils, nous l'avons vu jouer un rôle dans le drame de la mort paternelle, et ce rôle, tout de douleur, me semble devoir exciter la sympathie pour ce malheureux jeune homme qu'écrasait un si grand nom. Maintenant, les historiens lui reprochent une passion que l'on ne pouvait certes pas reprocher à son père, un trop grand amour pour les femmes. Ils citent à l'appui de ce reproche le long séjour que le jeune homme fit en Cappadoce, près du roi Marphadate, son ami. Ce roi Marphadate avait une fort belle femme, que l'on appelait Psyché, c'est-à-dire âme. Aussi disait-on de lui et de Marphadate, « Marphadate et Porcius, deux amis, une seule âme ». On disait encore, « Porcius Caton est noble et généreux, il a une âme royale ». Sans doute n'était-on si sévère pour le jeune homme qu'au souvenir de la rigidité de son père. Au reste, sa mort effaça bien cette légère tache de sa vie que je regrette de ne pas trouver dans celle de Caton. À Philippe, il combattait avec Brutus et Cassius contre Octave et Antoine. Voyant l'armée en déroute, il ne voulut ni fuir ni se cacher. Mais défiant les vainqueurs, ralliant les fuyards, il fit face à l'ennemi et se fit tuer en combattant, si bien qu'Octave et Antoine eux-mêmes rendirent hautement justice à son courage. La fille de Caton, nous la connaissons aussi. C'est Portia, la femme de Brutus, celle qui se blessa avec un couteau pour obtenir le secret de son mari, qui prit part à la conjuration et qui, apprenant la perte de la bataille de Philippe et la mort de son époux, s'étrangla avec des charbons ardents. Quant à Statilius, qui avait juré de suivre en tout l'exemple de Caton, il s'était saisi de l'épée du mort et allait se précipiter dessus lorsqu'il en fut empêché par les philosophes. Il mourut à Philippe avec Caton le fils.